Bonjour, moi c'est Matisse, mais on me surnomme la Tortuga sur les réseaux sociaux, qui veut dire la tortue en espagnol. Il y a plus de 3 ans, je me suis lancé dans une folle aventure avec la caméra à la main, sans avoir vraiment voyagé avant, sans aucune grande expérience dans le domaine. Je suis parti faire le tour du monde en solitaire, dans des endroits assez reculés, et j'ai lancé ma chaîne YouTube Tortuga Vidéo. L'année dernière, je me suis lancé un nouveau défi encore plus fou, traverser l'Islande du nord au sud, à pied et en solitaire. Donc je dormirai en tente et emporterai tout le nécessaire dans mon sac. Tout ça, comme vous pouvez vous en douter, sans avoir quasiment jamais campé dans ma vie. Donc sans grande expérience.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Mathis raconte l'Islande. Avec lui, on a parlé de glaciers, de réchauffement climatique et de soif.
J'ai bourlingué à travers le monde. Par ce projet, je souhaitais vraiment attirer l'attention sur un enjeu majeur qui se passe aussi bien en Islande que dans le monde entier, hein. C'est l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. On n'appelle pas l'Islande la terre de feu et de glace pour rien, l'île étant en grande partie recouverte de glaciers qui, malheureusement, avec justement le réchauffement climatique, fondent très rapidement et impactent la faune et la flore. Je voulais réaliser, donc c'était vraiment le projet de base, réaliser un film documentaire qui traiterait donc de ma traversée d'Islande, mais aussi majoritairement donc de l'impact du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais partager cette folle aventure que j'ai pu vivre en Islande. Il faut savoir que ça n'a pas été tout rose, et vous allez voir que, je me suis fait de grosses, grosses frayeurs. Alors, en plus de ça, moi qui suis amoureux de la randonnée et de la nature, l'Islande, c'est un pays qui me fait rêver depuis tout petit. Donc, au début, je me suis dit, est-ce que je ferais pas le tour de l'île? Je me suis dit, bon, tour de l'île, en vrai, tout le monde, en fait, vit. Personne ne vit au centre de l'île, tout le monde est vraiment sur les côtes. Donc, je me suis dit, c'est pas un projet qui me fait assez peur, et puis au final, c'est tellement touristique l'Islande que ça va pas m'apporter grand-chose. Puis, je me suis un peu renseigné sur le centre de l'Islande, et en me penchant sur ce centre de l'Islande, j'ai appris que c'est là où se trouvaient la plupart des glaciers, dont le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe, que d'ici 200 ans, les scientifiques avaient annoncé malheureusement que les glaciers allaient disparaître, la totalité des glaciers d'Islande. Ça m'a même énormément désolé parce que c'est un pays qui me tenait vraiment à cœur. Et sans ces glaciers, l'Islande n'est rien. Et en plus, l'Islande allait connaître un réel désastre écologique, étant donné que les Islandais vivent grâce à ces glaciers. Donc je me suis dit, je vais pas juste faire un film, une vidéo qui parle de ma traversée, mais aussi j'aimerais voir sur place ce qui se passe, interviewer des gens et vraiment refaire un petit documentaire et essayer de montrer à mon entourage, de montrer que voilà, il y a ce vrai problème en Islande, et valoriser la marche à pied, valoriser le contact avec la nature, et au moins que les gens soient au courant de ce qui se passe là-bas. Donc pour ce qui était du parcours, je commençais à Mývatn, donc qui est un lac situé au nord de l'Islande, et je m'enfonçais dans les terres pour arriver plusieurs jours après au volcan Axja, qui était un gros volcan où se trouve le camp qui s'appelle Dreki, qui est un camp qui était utilisé avant par la NASA des années auparavant pour s'entraîner dans les missions lunaires. Puis là, j'allais arriver au centre de l'Islande, l'endroit le plus isolé, à côté du Vatnajökull. Donc c'est un endroit, il y a une petite montagne auquel j'allais camper qui s'appelait Deilir. C'est l'endroit en fait où j'étais le plus isolé, et c'est là en fait si j'avais un quelconque souci, les urgences allaient mettre plus de 24 heures à venir me chercher. Donc ensuite c'est s'enchaîner plusieurs jours de marche dans des déserts de sable, de roches et de lave séchées. J'allais passer à côté d'énormes lacs pour ensuite arriver au deuxième et dernier camp qui est le Landmannalaugar, où j'allais revoir des personnes, revenir à la civilisation pour commencer une randonnée assez reconnue qui s'appelle le Laugavegur, pour ensuite terminer. Donc là j'allais avoir plus de 1500 mètres de dénivelé, passer entre deux glaciers qui abritent des volcans justement, dont le célèbre Eyjafjallajökull, qui hein, on le connaît, est rentré en éruption il y a quelques années, avait bouché tous les aéroports partout autour de l'Islande, on s'en rappelle très bien, pour enfin arriver à l'extrême sud de l'Islande, à Skogar, où se trouve la très célèbre cascade de Skogafoss. Donc, le jour du grand départ, je m'attendais pas à ce qui allait arriver, en fait. Et en fait, ce qui était dingue à ce niveau-là de Mi-Baton, on était à des niveaux d'habitation des fermes. Et en fait, au moment où je commençais de marcher, là, mon point de départ, ensuite, il n'y avait plus rien. Et j'avais vraiment cette sensation. En fait, quand je dis plus rien, c'est un énorme désert. Donc, au début, il y avait un peu d'herbe. Et puis, on voyait que c'était assez plat. Donc, on voit très, très loin. Et on voit au loin des espèces de montagnes un peu carrées qui allaient être mes points de vue pendant plusieurs jours. Et derrière ça, encore plus au loin, des chaînes montagneuses qui allaient être en fait le volcan Asja. Et quand je voyais tout le chemin que j'avais à parcourir et sans aucune habitation, j'avais en fait l'impression d'être au bord d'un gouffre et prêt à sauter à l'élastique. En fait, un peu cette sensation qu'on a avant de se jeter dans le grand vide. Et c'était assez excitant et en même temps, je flippais. Donc, il faut s'imaginer un paysage assez... pour l'instant encore un peu vert, au loin on voit à l'horizon à des kilomètres, comme un désert, on voit des kilomètres à la ronde, il n'y a rien qui nous gêne, pas d'arbres, rien, et un temps assez gris, donc ça, même heureusement qu'il n'y avait pas trop, il n'y avait pas de la brume, donc on voyait au loin, mais ça ne donnait pas trop envie quand même de se lancer dans l'aventure à ce moment-là. Évidemment, donc en fait l'équipe technique était censée me suivre à deux, en véhicule, et avec un véhicule plus ou moins adapté, justement, puisqu'on essayait de prendre un véhicule qui consommait le moins et qui était le plus adapté tout en consommant moins, ce qui n'existe malheureusement pas en Islande, hein, c'est que des énormes gros 4x4. Et en fait, à peine parti, que je les croise quelques mètres plus loin, et en fait, ils étaient sortis des pistes. Et donc, ils disent, bon, voilà, Mathis, on fait demi-tour et on essaie de te rejoindre. Nous, de toute façon, ils avaient le détail de mes cartes, le détail de mon parcours. Et ils m'ont dit, bon, on te rejoindra sur le chemin, au moins, au pire, dans le point 1. Point 1, c'était le premier endroit où j'allais établir mon camp. Je laisse mon Tokiwoki allumé. En fait, pendant toute la journée, il faut se dire que donc, j'ai traversé des paysages de plus en plus rocailleux. Je me rapprochais de cette montagne que je voyais au loin. Et mon Tokiwoki, j'arrêtais pas de le rallumer, de le réteindre, dans l'espoir d'avoir des signaux d'eux. Et j'arrive à mon point 1, en fait, à 13h30 de l'après-midi, parce que j'étais en forme, que c'était ma première journée. Et c'était une des pires décisions de ma vie, en fait, que de continuer. Parce que je me suis dit, bon, je vais pas établir mon camp à 13h30. En vrai, je vais tenter de continuer de marcher et d'arriver au point 2. Et le point 2, en fait, c'était dans un refuge. Parce qu'il faut savoir que l'Islande, en fait, il y a plusieurs refuges qui sont éparpillés en Islande. Tu peux même en trouver en plein milieu du Vatnajökull, en plein milieu du glacier, pour justement les voyageurs un peu téméraires ou encore la sécurité qui là-bas parfois doit traverser le pays avec des énormes véhicules. Et il faut évidemment des endroits où on peut séjourner. Donc c'est quatre murs, hein, avec le minimum à l'intérieur, avec parfois des bidons d'essence pour les véhicules, s'il y en a qui passent, vraiment pour le nécessaire de survie. Donc je continue ma marche, toujours pas de nouvelles donc de l'équipe technique, et j'arrive donc très tard le soir, complètement cassé, à 23h30 parce que j'avais beaucoup trop marché, je commence à être frigorifié, mes muscles se relâchent dans cette petite cabane blanche que je vois au loin avec une antenne dessus et qui allait être le refuge. Et là j'arrive et je ne vois toujours pas l'équipe technique. Et là je me dis, ça sent pas bon parce que j'étais censé les revoir ce soir. Et j'avais que 3 jours de ravitaillement. Il me restait 2 jours. Jamais j'aurais refait ce que j'ai fait en un jour. Donc ça veut dire que si je décidais de faire marche arrière, c'était en 2 jours. Donc en fait, il me restait 2 jours pour soit rebrousser chemin, parce que pour moi, il aurait été arrivé quelque chose, le véhicule n'était pas réparé, ou alors je décidais de continuer, et j'allais donc 2 jours après, j'allais justement sur le volcan d'Asgja, où il y avait le camp, avec normalement donc des rangers qui sont normalement positionnés dans ce camp, mais je n'étais même pas sûr. C'était quitte ou double, soit je prends le risque, dans 2 jours, ils sont là et ils me donneront la suite de ma bouffe, ou alors je décide que en fait il leur arrivait quelque chose, qu'ils n'iront pas au volcan, et je fais demi-tour avec les deux journées de bouffe qui me restent. Je passe une nuit horrible, sachant que j'étais frigorifié, je me suis enfermé dans mon duvet à moins 20 degrés dans un refuge, ce qui est pas une bonne idée, donc en plus tout habillé. Donc je me suis réveillé tout transpirant, je me suis dit c'est bon, j'ai dû boire une connerie dans l'eau de la rivière. Je suis tombé malade, alors que c'est juste que j'avais eu très chaud. Pas de nouvelles d'eux, là j'avais déjà des rêves où j'appuyais sur le bouton SOS. Dans ces espèces de paysages de roches volcaniques, je continue. J'ai mal partout, hein. Faut dire que j'avais trop poussé le premier jour. Mal étiré, vu que j'arrivais à 23h30, tout ce que je voulais c'était de dormir. Le fait de pas de m'être étiré. Dès le deuxième jour, j'ai commencé à boiter. ce qui m'a ralenti. Et il faut se dire que tous les jours, je faisais à peu près 25 km. Premier jour, j'ai fait entre 30 et 35 km, ce qui était un peu trop. Donc, je continue. Là, je me dis, bon, allez, j'ai un peu de force. Mes muscles rechauffent en marchant. On va aller en direction d'Asja. Et je vois au loin ces paysages montagneux qui se rapprochent petit à petit. Ça allait être le volcan. Donc, la journée J, donc c'était la journée où j'escaladais le volcan. Avec ma jambe qui boite, j'avais 1000 mètres de dénivelé. Sachant que là, j'allais commencer à avoir encore plus froid, étant donné que ça allait être des paysages plus montagneux, plus enneigés. J'ai pris mon temps à cause de ma jambe, en espérant que l'équipe technique allait être là-bas pour arriver à ma rencontre. Donc j'escalade ce volcan, et en fait ça a été la plus belle journée de mon parcours, parce qu'il faisait très beau, j'entendais les chants des oiseaux, je buvais l'eau directement à la source en fait, parce que c'était des petits glaciers qui fondaient, et c'était magnifique, et je me suis même baigné, donc après 3 jours sans douche, je me suis baigné dans l'eau gelée de la rivière, tout nu, avec personne autour, donc je pouvais être nu. Et puis j'ai mangé en séchant au soleil au bord de cette petite rivière. Donc j'ai continué à grimper petit à petit. Et là, c'est devenu plus compliqué. Je commençais à avoir froid. J'avais l'impression, en fait, on voyait vraiment hein, comme si on était un peu comme on voit dans un avion, hein, qu'on voit vraiment la courbure de l'horizon, tellement en fait on voyait loin. Tellement c'était dégagé, et je voyais la petite toute petite montagne qui s'affichait au loin là-bas, et en fait c'était d'où je venais, et je voyais un peu tout le paysage que j'avais parcouru, et j'étais assez impressionné. C'est ça que je me disais, en vrai tu peux pas abandonner maintenant. Donc je continuais difficilement dans cette neige plus en plus dense, et j'arrive au sommet de la crête du volcan, et là je vois en fait de l'autre côté, donc déjà le cratère qui est énorme, et surtout je vois tout au loin le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Je vois enfin le sud et je quitte le nord que j'ai traversé, donc une partie du nord. C'était ma première grosse étape. Et là, je vois arriver un drone juste au-dessus de moi et mon toki qui commence à refonctionner. Et là, je peux vous dire que j'étais vraiment heureux parce que je savais que j'allais bouffer. Et j'ai retrouvé l'équipe technique et on est allé ensemble jusqu'à Driki, qui est le camp justement dont je parlais avec les Rangers. Donc là, j'ai passé une soirée avec eux, ça m'a beaucoup réconforté, et je suis allé à la rencontre des Rangers pour leur dire ce que j'étais en train de faire et ce que j'allais faire. Et ils m'ont mis sur les gardes. Les 2 prochains jours, j'allais traverser un grand désert et je ne trouverais pas d'eau potable. J'ai dit ok, je savais que déjà les 2 précédents jours allaient être difficiles au niveau accès à l'eau. Au final, j'avais mon camel bag, hein, qui est une espèce de sacoche en plastique qu'on met dans son sac, qui m'avait pas trop servi. J'avais trop de kilos, je boitais. Je me suis dit, je pense que 2 litres, ça va suffire. Pour 2 jours, et puis il fait assez frais en Islande, je devrais pas trop rencontrer de problème. Grosse erreur de ma part, encore une fois. Donc déjà, j'ai vidé mon sac. J'ai vidé beaucoup de choses inutiles, dont mon camel bag, hein, parce que quand il est rempli, le camel bag, c'est 3-4 kilos de plus. Et en fait, c'était une grosse erreur. Il s'est avéré que quand j'ai quitté donc Driki, j'ai quitté l'équipe technique qui, faut le dire, en fait, le véhicule n'était pas du tout adapté. Donc en fait, évidemment, quand j'ai vu les seuls véhicules qu'il y avait, on dirait des véhicules lunaires. Et en fait, on n'était pas du tout prêt à ce niveau-là. Donc j'étais en fait vraiment livré à moi-même et seul. Donc avec mon équipe technique, on s'est donné rendez-vous 5 jours après. Ils allaient refaire tout le tour pour trouver une autre route qui allait en centre de l'Islande pour qu'on se rejoigne là-bas et qu'ils me donnent le reste de la nourriture. Et je suis parti avec 5-6 jours de nourriture. Je continue donc à traverser ce désert qui de plus en plus, le sable, je commence à m'enfoncer dans le sable noir volcanique de ce centre de l'Islande. Le vent se fait de plus en plus violent, donc je me bouffe plein de sable dans la tronche, ce qui m'assèche encore plus. Tout ça avec 2 litres d'eau. Et en fait, plus j'avance, plus mon eau diminue. Et en plus, je ne peux même pas manger mes nourritures lyophilisées, étant donné qu'on a besoin d'eau pour faire de la nourriture lyophilisée, vu que c'est la nourriture séchée. Donc, je pouvais manger que mes trucs secs, donc du fromage et du saucisson, qui donnaient encore plus soif. Donc, tous ces éléments combinés ont fait que j'avais encore plus soif. Et psychologiquement, le fait de savoir que j'avais pas beaucoup d'eau, ça me donnait encore en plus envie de boire. La fin de la première journée de traversée du désert, comme je l'appelle, toujours avec le Vatnajökull en vue, hein, et on pouvait imaginer, je pense, un énorme étendue de glaciers derrière. Donc je me dirigeais vers cette étendue, et la fin de la première journée, où j'avais déjà vidé 1 litre d'eau, plus 1 litre d'eau, où j'avais extrêmement soif, je crois voir au loin de l'eau. Comme un mirage, un peu, tu sais, comme quand ça flotte un peu au loin. Et je me dis, c'est soit un mirage, ou soit c'est de l'eau, mais si c'est de l'eau, c'est complètement dingue, parce qu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Donc je continue, et là je vois plus j'avance, plus je vois que vraiment il y a de l'eau. Et plus j'avance, je me dis, attends, c'est pas possible, ça va être de l'eau stagnante ou pas potable. Et là, je vois que l'eau ne stagne pas, mais qu'il y a vraiment du courant. Mais je me dis, mais en fait, toute l'eau que j'ai rencontrée depuis le début, avec du courant, était potable. Donc là, super content, je lâche mes affaires, je bois la moitié de mon litre qui me reste, donc il me restait 0,5 litres, 0,25. Je cours vers l'étendue pour aller remplir ma bouteille, et là, en fait, l'eau était complètement marron, c'était de l'eau boueuse. Et en fait, je m'étais les rangers s'étaient un peu mal exprimés aussi sur le fait, c'est que l'eau, en fait, c'est pas de l'eau potable que je n'allais pas, enfin, c'est pas de l'eau que je n'allais pas rencontrer, c'est de l'eau potable. Et en fait, pourquoi? Parce que cette eau-là, elle venait directement du Vatnajökull, directement du glacier. Et en fait, l'eau des glaciers n'est pas potable. Donc, sachant qu'évidemment, je n'avais pas de paille, et en plus, j'avais, même si elle servait à rien à ce moment-là, mais les pastilles pour enlever les bactéries, je les avais oubliées dans la voiture de l'équipe technique. Donc déjà, j'avais un combo. Qui était vraiment, qui aurait pu être fatal, mais de toute façon, j'aurais même pas pu les utiliser parce que cette eau était vraiment pas potable. Donc, j'avais plus beaucoup d'eau. Je campais en plus dans un terrain complètement sableux où la tente ne voulait pas tenir. Le sol se dérobait à mes pieds. Parfois, il y avait des gros trous qui se formaient. Il faut s'imaginer sur la Lune et c'était un paysage vraiment similaire. Sur la Lune ou encore sur Mars, c'était que du sable avec plein de rochers disposés. Donc, on pouvait savoir, on s'imaginait que c'était des rochers qui venaient de l'explosion du volcan Asja et qui s'étaient répandus en miettes partout autour de moi. Et j'avançais dans ce décor-là. Et en faisant attention où je mettais les pieds parce que parfois le sable s'enfonçait. Donc je dors dans ma petite tente et le lendemain je me réveille et en fait donc je continue en fait à remonter ce terrain un peu sableux mais mélangé avec justement l'eau dont je disais cette eau qui venait du glacier. Et vu que c'était le matin, et ben, l'eau était encore très bas. Je pataugeais un peu dedans avec mes chaussures, ça allait. Mais heureusement que c'est le réchauffement. Enfin, je vais dire heureusement que c'est le réchauffement climatique, mais heureusement que. Et c'est là où j'ai vu que c'était l'impact justement de ce réchauffement. C'est que notre, par temps habituel, justement, j'aurais dû faire vraiment gaffe et j'aurais pu m'enfoncer dans le sable. Sachant qu'en plein milieu de nulle part, à un moment, je vois un véhicule à moitié enseveli dans cette espèce justement de boue qui venait de ce mix de sable et de l'eau qui venait des glaciers. Donc j'ai pu prendre des superbes images là-dessus parce que on voit vraiment ce véhicule à moitié enseveli comme dans les films apocalyptiques et au milieu de nulle part. Et là plus j'avance dans la journée, plus je remonte cette espèce de petit courant, plus bah, évidemment le courant monte, plus la rivière se forme et à un moment j'arrive à un coude de cette rivière. Donc évidemment j'étais pas du bon côté de cette rivière. Il fallait qu'à un moment je la traverse et le courant à pleine puissance et j'arrive vraiment quasiment au niveau du glacier. Donc j'essayais de désespérément en fait de trouver un endroit où traverser cette rivière, donc ce gué. Et en fait, il faut se dire que c'était tellement large que je ne voyais quasiment pas l'autre bout de cette rivière. Et il faut se dire que le courant était tellement fort en fait que tu avais des blocs de glace qui étaient emportés par le courant, des blocs de roche aussi. Et d'ailleurs, en commençant à traverser ce gué, je m'en prenais quasiment sur la jambe. Je m'en suis pris sur la jambe d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que je sentais rien. Pourquoi? Parce que l'eau est gelée. L'eau est à moins de 5 degrés. Et en fait, au bout de 30 secondes, les pieds dans l'eau, on commence à sentir des fourmillements. Et on commence à ne plus du tout sentir la jambe. Et je me suis dit, ça faisait déjà plusieurs minutes que je traversais le gué. Je n'en voyais toujours pas l'autre bord. Le courant qui s'accélère. Et je me dis, et le courant, et surtout le niveau de l'eau qui monte, hein, plus, au fur et à mesure de la journée, rapidement. Et je me dis, attends, là, je vais me choper une crampe avec le poids de mon sac. Je vais me faire emporter par le courant. Donc je continue et là je me retrouve au centre de cette rivière, de ce gué, sachant qu'il est très large, donc j'avais quand même parcouru un assez gros chemin. Et au centre, il y avait un espèce, ça remontait un petit peu, donc j'avais un peu plus pied, je pouvais rapidement sortir les pieds de l'eau. Donc là, je me suis dit, attends, il y a encore la moitié à traverser, le courant accélère, je vois l'eau qui commence à monter à l'endroit où j'avais pied, et je commence à plus sentir mes jambes, et je me dis que là, c'est pas du tout une bonne idée. Je me dis, allez Mathis, on continue, on tente. Je continue et là d'un coup en fait, vu que l'eau est trouble, je ne voyais pas le fond. Et là d'un coup, je m'enfonce en plein dans du sable que je n'avais pas vu. Et en fait, l'eau arrive jusqu'à ma taille et j'ai failli me faire emporter par le courant. Donc là, j'ai fait demi-tour et j'ai dit Mathis, stop. Je suis retourné de l'autre côté. J'ai dit Mathis, c'est pas possible, c'est pas possible. Là, il faut que tu fasses fonctionner ta raison, c'est-à-dire tu poses ta tente et tu attends le lendemain matin pour traverser. Sauf que à côté, je n'avais toujours pas d'eau. Et ça voulait dire une troisième journée sans eau. Et ça, ce n'était pas possible. Du coup, j'ai porté mes couilles, j'ai remis mon sac, je suis reparti et avec mes bâtons, psychologiquement prêt, et j'ai traversé cette rivière. Ça m'a pris un temps énorme. J'ai dû mettre une demi-heure, trois quarts d'heure pour traverser, ce qui m'a énormément retardé. Et en fait, seul, dans ce vacarme assourdissant de cette rivière, c'était la plus grande peur de ma vie. Et je pense que je n'étais pas été le plus intelligent à ne pas prendre d'eau à ce moment-là, parce que j'aurais planté ma tente et j'aurais attendu le lendemain matin. Il s'est mis à pleuvoir, j'ai fait comme dans les films, à ouvrir ma bouche vers le ciel, tirer la langue, rien n'y fait. Et un moment où vraiment j'étais au bord du lâcher-prise, où je n'arrivais plus à continuer, je n'avais plus la force dans les jambes, je savais que j'avais l'impression que j'allais jamais trouver d'eau. Je vois une espèce de plaque, une petite plaque de glacier, de neige. J'arrive, je gratte un peu cette espèce de terre qui était parsemée de petits bouts blancs qui ressemblaient à de la neige. Et au fond, en fait, sous cette boue, il y avait le fond d'un petit glacier et il y avait encore une espèce de petite boule de glace blanche. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter de faire bouillir ça et de le boire. Bon, là, c'était de l'eau gelée, donc j'avais moins de chances de choper une merde, mais quand même, ça ne m'attirait pas énormément. Donc, je me suis fait une petite tasse de café d'eau, enfin, même une petite tasse de thé, je peux me dire, parce que j'ai fait bouillir l'eau. Et vu que j'avais très soif, bah, je l'ai mis avec. Donc, je l'ai filtré avec du PQ. L'eau était quand même un peu terreuse, ça me faisait un peu peur. Et du coup, j'ai mis ma petite pochette de thé que j'avais dans mon sac, dans l'eau pour lui donner un peu de goût, et j'ai bu ça, j'en ai bu deux petites tasses, et ce qui m'a donné la force nécessaire pour continuer et arriver jusqu'au refuge. Et là, j'arrive vers le refuge avec à bout de mes forces, et heureusement, je vois des personnes sortir du refuge. Il y avait deux Espagnols et un Français qui étaient dans le même souci que moi, hein, qui étaient complètement assoiffés, qui n'avaient pas d'eau non plus. Et j'arrive et en fait ils me tendent une bouteille d'eau et ils me disent vas-y bois ta soif, bois ta soif. Et en fait je vois au regard du deuxième que c'est faux, qu'ils n'ont pas beaucoup d'eau et que ça fait très longtemps qu'ils sont en train de préparer cette eau avec en fait un bac, il y avait un bac d'eau dans le refuge et en fait c'est écrit emergency water et c'était un bac de boue. Ils avaient mis cette boue mélangée un peu à la glace que j'avais rencontrée plus tôt, ils avaient foutu ça dans le bac et en fait ça avait décanté et il y avait une petite couche d'eau avec la boue qui s'était mis donc au fond de ce bac là, ils avaient fait bouillir ça, ils avaient filtré avec une chaussette ou un thé d'oreiller, je sais plus, puis ils avaient filtré goutte par goutte avec leur paille, parce qu'ils avaient une paille, et tout ce procédé ça leur avait pris toute une après-midi je crois. Et du coup bah j'ai pris que deux gorgées, je pouvais pas boire l'euro, j'ai pris que deux gorgées parce que je savais que en fait ils avaient que cette bouteille d'eau. Mais au final le fait qu'il y ait d'autres personnes, ça m'a psychologiquement énormément aidé. Et en fait, donc on a un peu continué à filtrer le peu d'eau qu'on avait. Donc il y avait une antenne dans le refuge, ce qui nous a permis de... J'ai pu appeler les rangers qui m'ont dit bah, « sortez, prendre de la neige ». Mais je leur ai dit « il n'y a pas de neige justement ». Et les rangers m'ont dit « on est désolé, mais il va falloir que vous remarchiez 15 km le lendemain, c'est-à-dire plus d'une demi-journée, pour retrouver de l'eau ». Donc le moral était vraiment très bas. Heureusement qu'il y avait d'autres personnes autour pour tenir le coup. Donc évidemment on n'a pas pu remanger lyophilisé ce soir-là, ou très peu. Et on s'est fait on a passé des heures à se faire des petites rations. On s'est fait je crois 1 demi-litre d'eau chacun. Et pour la petite anecdote, le lendemain quand les deux Espagnols nous ont quittés pour remarcher et qu'il ne restait que moi et le Français se préparait à partir, il est parti aux toilettes et j'ai vraiment hésité. J'ai très très hésité à lui piquer un peu d'eau tellement j'avais soif et que je voulais boire de l'eau. Et au final, en fait, en transvasant les bouteilles, j'avais renversé un peu d'eau sur la table, donc j'ai aspiré l'eau que j'avais fait tomber sur la table. Donc c'est là où je me suis rendu compte de la vraie valeur de l'eau et de ce que ça pouvait faire quand on était vraiment dans le besoin. J'étais prêt à tout pour voler un peu d'eau. Donc le lendemain, je continue à marcher tant bien que mal, et enfin, je quitte ce paysage complètement sableux, désertique, et je commence à voir un peu d'eau au loin. Et là, enfin, je recroise les deux Espagnols et le Français qui s'est arrêté pour s'abreuver. Et t'as un des deux Espagnols, c'était génial, je me rappellerai toujours, qui a couru vers moi avec de l'eau et qui m'a dit « vas-y, bois, bois à plein goulot ». Et donc là, c'était le meilleur moment de ma vie presque de retrouver cette eau. Hein. Alors que toutes mes pensées étaient vraiment... Je rêvais d'être au bord de la plage et siroter ma bière ou un grand verre de coca pendant 3 jours auparavant. Et en fait, l'Islande, c'est ça qui est terrible, c'est que dès qu'on arrive à résoudre un problème, il y en a un nouveau qui arrive. Et là, donc, au moment où j'ai trouvé de l'eau, qu'est-ce qui arrive ? Au loin, je vois plus je marche, plus je continue dans la journée, je vois un énorme nuage qui touche presque le sol, complètement gris, qui se dirige droit vers moi. Là, hop, je ressors mon équipement de pluie et je me dis, ça va vraiment pas du tout être le fun. Et là, je monte pour la première fois ma tente en plein dans un gros orage. Et je commence à paniquer parce que cette tente, je galère encore à la mettre, elle est assez compliquée à mettre. Et ma plus grande peur, c'était d'être mouillé. Parce qu'en fait, le pire chose qui peut nous arriver pendant cette traversée d'Islande, c'était en fait l'hypothermie, c'est-à-dire que nos vêtements se sont trempés, on n'arrive pas à les faire sécher, du coup on meurt d'hypothermie. Et là, j'avais peur en fait que ma tente soit complètement trempée et du coup, de ce fait, mon sac de couchage aussi et mes vêtements, et que je ne me réveille plus le lendemain matin dans ma tente. Donc heureusement, le lendemain, il a arrêté de flotter. Il a flotté vraiment toute la nuit. Et là, c'est au moment où je suis arrivé vraiment au cœur de l'Islande. Je suis arrivé vraiment... C'était la moitié de mon trajet, la moitié de mon parcours. J'étais au plus près du Vatnajökull et là, je pouvais voir s'étendre à des kilomètres la glace, le glacier. C'était magnifique. Et là, il y avait un vent énorme hein, parce qu'on montait un peu, on montait un peu dans les sommets. C'était quasiment inaccessible pour quiconque de venir nous récupérer. Puis petit à petit, j'ai repris ma route en solo. Et donc mon équipe technique avait posé la nourriture à un endroit où on avait convenu, sous un rocher, et j'ai pu refaire un ravitaillement toujours solo. Et là j'ai commencé petit à petit à suivre des longs espèces de. C'était deux traces de pneus, mais c'était en fait une des seuls endroits où les véhicules pouvaient traverser l'Islande du nord au sud. Et j'ai commencé à suivre ces longs piquets jaunes. Qui était à perte de vue et ça me rendait un peu fou. Il faut savoir qu'on a eu nos petits moments de tension avec mon équipe technique étant donné qu'on n'a pas beaucoup communiqué pendant ce trajet, qu'on s'est pas beaucoup vu, et en fait rien que de penser à ça, ça m'a retourné le cerveau pendant toute une journée, à un moment à suivre ces piquets jaunes avec le j'avais mal à la jambe etc, et puis en fait toutes ces pensées se ressassaient dans ma tête et ça tournait, et c'est là où j'essayais de méditer à fond parce que en fait la moindre petite pensée devenait un sujet très important, voire existentiel dans ta tête, alors que j'aurais pu juste mettre ça de côté, mais c'était limite une souffrance psychologique. Puis j'ai longé d'énormes lacs. J'avais envie de m'y baigner, si j'avais eu plus de temps, je m'y serais baigné, mais là c'était une course contre la montre et j'avais des kilomètres à rattraper, donc il fallait que j'avais pas le temps de me poser. Et petit à petit, en fait, revenais vers la civilisation. Parfois, je croisais quelques rares véhicules qui s'arrêtaient, qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais en plein milieu de l'Islande ?» Je disais « Je le traverse. » Ils étaient complètement malades. Même une fois, à l'époque où j'étais encore un peu avec le français était devant moi, et il y a un camion qui s'arrêtait à mon niveau, et cette espèce de camion lunaire, et il m'a dit « Ouais, tu veux quelque chose ?» Je dis « Non, il n'y a rien, je veux rien. » Et au final, j'ai un peu regretté. Il était même là. Est-ce que tu veux qu'on t'avance? Je dis, non, je vais faire ça tout seul. J'ai pas besoin d'aide, machin. Et en fait, donc évidemment, poliment, en remerciant. Et quand le camion se barrait, je jetais mon sac par terre. Je me disais, putain, mais pourquoi, Mathis, tu t'as pas accepté? T'es complètement con, machin. Et puis au final, j'avais rejoint le français et le français avait demandé un peu d'eau parce qu'il avait plus beaucoup d'eau. Et en fait, il leur avait donné de l'eau, mais aussi deux bières. Et on a pu siroter notre bière. Alors pour le dire, hein, une bière, alors que ça fait plusieurs jours qu'on marche non-stop sans boire d'alcool, qu'on est claqué, ça monte vite à la tête. Donc j'ai continué ma route, petit à petit. Et donc là, c'était vraiment des journées qui se ressemblaient plus ou moins les unes des autres, mais où les paysages étaient quand même magnifiques. C'était toujours un paysage aussi plat, aussi lunaire et martien, mais petit à petit, je commençais à avoir un peu de végétation. Et en fait, le problème qui commençait à arriver maintenant, vu que j'arrivais à côté des points d'eau, c'était les mouches. En fait, il faut savoir que là-bas en Islande, dès que des mouches vous trouvent, c'est des essaims de mouches qui sont assez grosses et qui vous suivent pendant des kilomètres. Le dernier jour avant l'arrivée au second et dernier camp, le lendemain à Lugar, j'avais pris du retard et je me suis dit là, tant pis, s'il faut marcher pendant plus de 24 heures, je vais le faire, mais il faut que j'arrive au camp. Et j'ai marché plus de 40 km. Pendant plus de 40 km, je suis arrivé quasiment minuit au camp, j'ai été suivi par ces essaims de mouches qui en fait essaient de te rentrer dans tes oreilles, essaient de te rentrer dans tes yeux, essaient de te rentrer dans ton nez ou encore dans ta bouche. Et j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient nées pour en fait te faire chier. Et en fait, j'ai appris qu'elles étaient attirées par les endroits chauds. C'est pour ça qu'elle essaie de rentrer dans le nez, dans les oreilles, etc. Et ça, c'était une épreuve psychologique assez intense. Et c'était un des moments où je m'étais le plus énervé. Et puis j'ai continué, je suis enfin arrivé au lendemain à Lugar, où là, les mouches m'ont quitté d'un coup, comme par magie. Et là, j'ai pu revoir des gens, j'ai pu me doucher, j'ai pu prendre des bains de source d'eau chaude. Et je me suis pris une journée de repos là-bas. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien. Et j'ai rejoint évidemment mon équipe technique qui, eux, après cela, donc, m'ont donné le reste de mon équipement et c'était la fin de leur mission. Et je continuais en fait les derniers jours seul. qui au final était moins complexe étant donné que là j'allais traiter un peu plus de monde parce que c'était le début d'une randonnée plus ou moins reconnue. Et là en fait c'était plus de 1500 je crois mètres de dénivelé à escalader et je suis, donc là c'est des paysages assez connus parce que c'est le Laugavegur qui est une randonnée assez connue en Islande. Et là du coup j'ai pu traverser des paysages magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai croisé quelques fois des espèces de pierres tombales. Donc, il disait, donc là, je l'ai devant les yeux, j'avais pris en photo, mais il y avait cette personne qui était décédée à 25 ans, donc qui est quasiment mon âge, à cause du brouillard, très près du refuge. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse attention. Et puis, évidemment, je me suis trouvé dans des blizzards, mais le GPS fonctionnait bien. Donc, j'ai pu continuer mon chemin. Et je suis passé à côté des deux glaciers qui abritaient des volcans qui sont encore en éruption et qui peuvent encore sauter à tout moment. Hein. Je crois qu'il y en a un des deux qui rentrait en activité tous les 5 ans et dont le célèbre Eyjafjallajökull. Donc j'ai pu passer à côté de ce célèbre volcan et là c'était assez impressionnant. Donc j'ai revu les paysages enneigés qui m'avaient manqué pour finalement terminer à Skogar. Et comme si j'en voulais, comme si j'en avais pas eu assez, je suis allé jusqu'au bord de l'île, à l'extrême sud de l'Islande, jusqu'à la plage, pour aller vraiment compléter, pour aller terminer en toute beauté. J'ai remarché les derniers kilomètres pour me retrouver juste au bord de la mer. En fait, depuis que j'ai traversé l'Islande, déjà, personnellement, chaque obstacle, avant, dès que j'avais un problème dans ma vie, c'était une tare qui revenait et qui c'était comme un fardeau en plus qui s'ajoutait. Maintenant, en fait, j'ai l'impression pour moi que c'est un nouvel obstacle à franchir, que c'est un nouveau challenge, et qu'au final, bah, si j'arrive pas à le surmonter, tant pis, je ferai le maximum pour le faire quand même, et qu'il faut que j'accepte ces problèmes qui au final nous arrivent à tous les jours, on a des nouveaux problèmes, il faut juste les accepter et se détacher psychologiquement du problème et ne pas ressentir d'émotions négatives en fait. Donc alors qu'avant j'étais apeuré par des problèmes, que j'étais stressé à cause de ces nouveaux problèmes qui arrivaient parfois dans ma vie, là je me disais bon bah c'est un nouveau défi à relever. Et pour ce qui est de l'impact du réchauffement climatique que j'ai pu relever, bah comme j'ai pu le dire en fait pendant mon récit, j'ai notamment pu constater en fait la reculée énorme de cette du glacier du Vatnajökull, qui comparé à des cartes que j'ai trouvées dans des refuges qui dataient de plusieurs décennies, clairement on pouvait constater le fait qu'il était plus du tout au niveau où la carte le représentait. Donc c'était encore un point qui montrait bah, bien que le réchauffement climatique était vraiment là. Et un mois à peine après être rentré, le premier glacier officiellement mort, entre guillemets, venait d'être annoncé, et c'est le glacier Ok. D'ailleurs, ils en ont beaucoup parlé dans les médias. Les Islandais ont posé une plaque commémorative sur ce glacier, en mémoire de ce glacier en fait, qui n'en est plus un, et c'est le premier en Islande à perdre en fait, sa dénomination de glacier. Donc plein d'impact et en seulement 15-16 jours de traversée d'Islande, j'ai pu constater des faits, ce qui est quand même assez grave et assez énorme, sachant que normalement ce sont des faits que l'on devrait constater en millions d'années. Donc voilà, en tout cas, j'espère que bah, ma traversée en Islande, où j'ai vraiment eu pu apprendre de moi-même à faire toutes ces erreurs, hein, parce qu'au final j'ai fait un peu les erreurs qu'il fallait pas faire quand même. Mais bon, je l'ai dit dès le début, j'y suis allé sans vraiment trop d'expérience, mais quand même très préparé, très bien préparé, parce qu'il faut quand même sans expérience bien se préparer. J'espère que le fait d'avoir raconté cette histoire, moi j'adore toujours me souvenir de cette expérience de toute façon. Voilà, salut tout le monde.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter cette histoire en particulier?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, eh bien parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai traversé l'Islande du nord au sud en solitaire, un endroit assez hostile, puis j'étais seul en plus. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on a besoin de raconter, sachant que, bah, comme je le disais, j'étais seul, donc il n'y avait pas grand monde avec qui partager cette aventure. D'ailleurs, c'est ce qui manquait en fait justement, c'est qu'au final, on peut pas partager cette expérience avec quelqu'un. C'est pour ça que aujourd'hui j'ai envie de raconter au plus grand monde pour pouvoir partager déjà ce que j'ai pu vivre là-bas et ne pas garder ça pour moi. Ensuite, pour dire aussi que, eh bien, tout le monde peut vivre ce genre d'expérience. Tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis pas né aventurier, mes parents ne sont pas de grands voyageurs, et en fait, cette passion du voyage, de l'aventure, elle m'est venue au final assez tard, c'est après mes études, des études que j'ai fait en plus en école de commerce, donc voilà, c'est pas du tout rien à voir avec le milieu de l'aventure et du voyage. Donc en fait, pour dire que tant qu'on se prépare bien, tant qu'on a une passion, tant qu'on a vraiment envie de le faire, tout le monde peut arriver. En fait, on a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut, tant qu'on est vraiment passionné et qu'on se donne à fond. Donc voilà les raisons pourquoi j'ai voulu partager cette expérience. Puis évidemment, il y a aussi cette partie de sensibilisation au réchauffement climatique et à l'impact que ça a sur les glaciers en Islande, qui fait partie de mon projet évidemment. C'est aussi une des grosses raisons, parce que je voulais allier cette cause à mon projet qui me tient à cœur, étant donné que je suis un amoureux de la nature et que, en fait, voilà, le fait que de voir que l'Islande était un des pays les plus impactés en Europe avec la fonte de ces glaciers, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager.
Bon alors, tu dis que t'as fait le tour du monde, est-ce que tu peux nous raconter du coup tes histoires et tes anecdotes les plus marquantes ?
Alors, mes expériences les plus marquantes durant mes voyages autour du monde, il y en a plusieurs, notamment j'ai pu en fait, pareil, c'était sans expérience, hein, parce qu'il faut savoir que c'était sur un coup de tête après mon stage de fin d'études que mon meilleur pote m'a dit « Viens Mathis, on va faire l'Amérique latine, Pérou-Bolivie. » Après, lui, il partait étudier au Mexique. Je lui disais, au pire, je sais que tu cherches un stage, que tu cherches à continuer quand même dans le milieu professionnel. Au pire, bah tu viens avec moi au Mexique et puis ensuite, tu trouveras un stage là-bas. Moi, ça m'a fait ultra flipper. J'étais un road trip, t'es sûr, backpack, etc. C'est super dangereux, en plus, l'Amérique latine. Au final, le jour où j'ai posé mon pied en Amérique latine, bah la mouche du voyage m'a piqué et j'ai pas arrêté de voyager autour du monde pendant quasiment un an. Donc en fait, la première grande épreuve que j'ai pu vivre, c'était de descendre dans les mines de Potosi en Bolivie où justement la température peut monter jusqu'à 50 degrés. Là-bas, j'ai pu voir un peu comment vivaient, comment travaillaient des mineurs dans des conditions assez difficiles. Donc c'était quand même une première expérience assez bouleversante. Ensuite, quand j'ai commencé à voyager seul, c'était au Mexique où je me suis retrouvé en plein milieu de la jungle mexicaine, de la jungle de Palenque. Je me suis retrouvé dans un village donc où il n'y avait pas du tout l'eau courante. Là-bas, il fallait que je me baigne directement dans l'eau gelée de la rivière et je dormais dans une petite cabane avec quatre murs et au centre, il y avait une ampoule qui pendait du plafond. Et j'avais juste un hamac pour dormir. Ensuite, j'ai eu l'occasion de vivre dans des fermes biologiques où les fermiers, donc c'était en Asie, où là-bas, en fait, c'était une, pardon, en Asie et une autre en Turquie, où en fait, ces personnes vivaient dans une ferme où ils se, comment dire, ils arrivaient à s'auto-suffire, autosuffisants avec leurs plantations, avec leur bétail, etc. Donc c'était quelque chose d'assez enrichissant et j'ai pu apprendre comment vivre avec peu de moyens, juste avec ce que nous, on pouvait créer dans notre jardin, chez nous, etc. Une des plus grosses expériences de mes voyages, c'était le monastère bouddhiste au nord de la Thaïlande, où j'ai pu y vivre pendant plusieurs jours. J'ai appris la méditation. Ça, c'était une expérience très très forte. J'ai appris beaucoup de choses et aujourd'hui encore, ça m'a aidé à surmonter des épreuves. Là-bas, en fait, j'étais vêtu d'un espèce de tenue blanche où tout le monde était obligé d'avoir une tenue blanche là-bas dans ce monastère au milieu de nulle part. Et on se levait très très tôt le matin. On dormait à même le sol. On avait juste un petit tapis sur lequel dormir. Le matin, on levait vers 5-6 heures du matin. Petit déjeuner, donc évidemment que à base de légumes, de riz, etc. Après, on déjeunait vers 11 heures. Et ensuite, il fallait attendre le lendemain matin 6 heures pour remanger, parce qu'en fait, tout le reste de la journée, c'était que des méditations, des chants, des prières bouddhistes, avec les moines qui vivaient dans une forêt, dans des grottes à côté du monastère. Et il y avait des expériences assez compliquées. Par exemple, après les prières et les méditations qui duraient des heures, il fallait faire des marches dans la forêt et on devait marcher les pieds nus sur le sol brûlant de la forêt très doucement en méditant sur nos pas. C'était assez compliqué, mais j'ai beaucoup appris avec cette méditation entre guillemets forcée. Et d'ailleurs, j'ai pu refaire une vidéo, un reportage sur YouTube qui a plutôt bien fonctionné et que j'invite tout le monde à regarder en tapant, je pense juste sur YouTube. Tortuga, monastère bouddhiste, et ça devrait être une des premières vidéos.
J'ai aussi pu donc effectuer la traversée nord-sud du Vietnam à moto. Et la dernière grosse expérience que j'ai pu vivre, c'était en Birmanie, où j'ai vécu. J'ai dormi une nuit dans un village de rebelles armés. Ça m'a suffi, étant donné qu'on était très proche avec le guide, un guide un peu clandestin que j'avais trouvé là-bas. On était très proche du front de la guerre à ce moment-là. J'avoue que je ne recommencerai pas ce genre d'expérience, parce qu'en fait, j'étais parti avec ce guide pour faire de la motocross dans des terrains assez désolés. Et en fait, on s'est retrouvé vraiment dans des endroits qui étaient limites. D'ailleurs, pour l'anecdote, un moment, le guide me montre un village qu'on voyait au loin. Il me disait, ça, c'est les rebelles, c'est des rebelles ennemis. Si on va là-bas, lui, du coup, il se fait que trancher la tête. Et moi, en fait, je me faisais probablement capturer avec une demande de rançon. Et j'avoue que ça m'a un peu fait flipper, mais c'était quand même une expérience, évidemment, qui s'est bien passée. Et j'en tire de très bons souvenirs.
Mais en fait, avec toutes ces histoires, tu te définis plutôt comme un voyageur ou un aventurier?
En fait, je pense que je me considère un peu des deux. C'est-à-dire, les deux me plaisent. Dans le voyage, il y a de l'aventure, et dans l'aventure, en fait, il y a du voyage. Pour moi, le voyage, ça évoque plus découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouvelles traditions, etc. Et ce sont les points que j'adore dans le voyage. L'aventure, c'est plus de relever des défis personnels, des défis sportifs, un peu comme ma traversée de l'Islande. Donc, on va dire que je suis un voyageur aventurier, ou un aventurier voyageur.
Et quel que soit le voyage ou l'aventure, qu'est-ce que tu prendras toujours avec toi dans ton sac?
Alors, quel que soit le voyage, vu que j'aime bien voyager solo, je prendrai toujours déjà ma caméra. Je sais que c'est pas la première chose que j'en prendrai, c'est ma caméra parce que j'aime beaucoup partager ce que je vis. J'adore la vidéo, donc c'est la première chose que je prendrai. Mais sinon, la première chose que je prendrai avec moi dans mon sac, d'autres choses que je prendrai toujours dans mon sac, en vrai, en fait, on a besoin de rien, hein. On n'a besoin de rien. Pars voyager, tu pourrais... C'est ça le truc, c'est quand tu pars voyager, tu peux tout trouver sur place. Je pourrais partir voyager sans sac, finalement. Tout ce qui est vêtements, tu le trouves sur place. Tout ce qui est trousse de toilette, etc., tu le trouves sur place. Donc moi, en fait, la seule chose que je prendrais, c'est ma caméra pour ramener des images et le partager avec le plus grand nombre. Parce que c'est bien beau de vivre des expériences, mais pour moi, j'ai ce besoin de partager autour de moi.
Justement, en parlant de ça, c'est quand qu'on pourra visionner ton documentaire ?
Je suis en fait en train de préparer un documentaire qui va allier ma traversée de l'Islande, du nord au sud, mais surtout cette cause que j'ai voulu allier à mon projet, qui est la cause du réchauffement climatique sur les glaciers en Islande, où j'ai pu d'ailleurs revenir avec des témoignages assez incroyables de locaux, dont une personne membre du Parlement islandais et qui est un géologue reconnu mondialement. Et en fait, je suis en train de faire un film d'environ une cinquantaine de minutes, ce qui est un travail assez fastidieux, et en fait, il devra certainement sortir début 2020, certainement janvier ou février 2020. Après, où ça sera certainement en Paris ou région parisienne. Peut-être qu'il y aura plusieurs séances, tout dépendra de comment ça fonctionne. En tout cas, aujourd'hui, je ne peux pas donner de date précise ou de lieu précis, et par contre, ça sera communiqué dès que ça sera terminé et que je le saurai. Ça sera communiqué, évidemment, sur mes réseaux sociaux, donc Tortuga, T-O-R-T-U-G-A, vidéo, Facebook, YouTube ou Instagram. Voilà, donc j'invite tout le monde à s'abonner pour ne pas louper quand ce reportage sortira sur, j'aime bien le lire, sur le grand écran. Et en attendant, eh bien, il y a des vidéos qui sont postées évidemment sur YouTube régulièrement, qui essayent de spoiler le moins possible mon voyage, mais qui quand même donnent de très très belles images.
Je voulais également savoir comment tu considères, toi, les rencontres en voyage, et si tu as tendance à garder contact avec les personnes que tu rencontres.
Pour moi, les rencontres en voyage, c'est les rencontres les plus intenses. Et en fait, des voyages sans rencontres, généralement, c'est assez vide. Et même en Islande, même ma traversée d'Islande, les choses qui m'ont le plus impacté, c'était mes rencontres. Et j'ai notamment pu rencontrer deux Espagnols qui faisaient une traversée avec une autre route. Que d'ailleurs, j'ai rencontré l'endroit où je manquais d'eau, là, justement, et qui était vraiment un moment affreux. J'ai rencontré aussi un Français qui était plus jeune que moi et qui faisait aussi cette traversée en solitaire. Et en fait, ces rencontres, elles sont tellement forte parce qu'on vit ensemble une expérience similaire, une expérience unique, que ces gens, on n'est pas prêt de les oublier, et je pense que je me rappelle quasiment de chaque personne que j'ai pu rencontrer durant mes voyages. Et oui, je garde contact avec eux, généralement sur WhatsApp, et en fait, quand je sais que le jour où ce Français qui vit dans les Alpes, il vient à Paris, on se verra très certainement. Et d'ailleurs, par exemple, Nicolas, qui est une des deux personnes qui a fait partie de mon équipe technique en Islande, eh bien, je l'ai rencontré au Laos, et il vit en région parisienne, et ben voilà, on a vécu cette expérience quasiment ensemble, même si on s'est pas trop vu avec les équipe technique, je l'ai invité évidemment parce que je lui faisais confiance et je savais qu'il adorait l'aventure et on a vécu ensemble cette, entre guillemets, cette traversée de l'Islande.
Bon, et une fois que t'es de retour au pays, est-ce que ça t'arrive d'être atteint de ce qu'on appelle le blues du voyageur ou le spleen post-voyage et comment tu te soignes ?
Oui, oui, je l'ai vécu, ce blues du voyageur. Alors, quand je suis rentré de mes voyages en Asie, au début, j'étais là, bon, en fait, ça va, je suis content de rentrer. Évidemment qu'on est toujours content de rentrer, mais sur le long terme, c'est plutôt badant quand on re-rentre, surtout dans la vie parisienne. Et moi, c'est là où la méditation que j'avais appris dans le monastère bouddhiste m'avait beaucoup aidé. La méditation, on se reconcentre sur aujourd'hui, sur ce qu'on fait en ce moment même, et on arrête de repenser au passé, on arrête de se reprojeter sur l'avenir. Généralement, c'est ce qui se passe quand on rentre. D'ailleurs, c'est assez chimique dans le cerveau, hein. C'est les parties du cerveau qui s'activent, c'est en fait les souvenirs et aussi la projection vers l'avenir. Du coup, on ne profite pas plus du moment présent et on ressasse cette petite voix qui est dans notre tête et qui repense à tous ces moments qu'on a vécu et on repense au fait qu'on a envie de repartir, etc. Et ça fait une espèce d'un boucle vicieux et on devient très vite anxieux et on part très vite en dépression. Et j'ai connu ça. Alors, en fait, j'avais très mal vécu ce moment et la méditation, ça m'a beaucoup aidé et j'ai essayé de refaire le plus possible des activités que je faisais en voyageant. C'est-à-dire que je reprenais la randonnée, j'allais dans le parc de Saint-Cloud pour me dégourdir les jambes, j'essayais de faire des rencontres un peu au hasard, dans la rue, dans des bars, je rebouquinais seul dans des bars, etc. J'essayais de revivre les mêmes expériences. À mon retour d'Islande, c'était un peu différent, étant donné que c'était une aventure plutôt sportive et plutôt qui était très compliquée et difficile moralement et physiquement, que quand je suis rentré, j'étais justement très très bien et j'ai été encore plus heureux j'ai plus apprécié ma vie de tous les jours. Donc là, en fait, j'ai pas vraiment eu de blues, j'étais justement complètement changé. Et justement, en fait, alors qu'avant l'Islande, chaque problème c'était quelque chose qui était quand même très dur pour moi, c'était comme une montagne à chaque fois à surmonter, les problèmes s'accumulaient et je partais vite, je devenais anxieux et stressé. Alors que maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème qui revient dans ma vie, je le vois comme un nouvel obstacle, comme un nouveau défi à surmonter. Je me dis, bon bah, très bien, il y a ça qui vient de m'arriver, ça fait chier, mais tant pis, c'est un nouveau problème, on va le surmonter et au pire des cas, c'est pas la fin du monde. J'ai la santé, j'ai mes amis, j'ai ma famille, donc c'est ce qui compte et on revient en fait à l'essentiel. Mais voilà, pour donner en gros des tips, c'est il faut essayer de pas se prendre la tête, d'essayer de se refocus sur le moment présent, de tourner la page et essayer de pratiquer des activités qu'on faisait pendant nos voyages justement.
Bon, pour se parler du futur un peu, quels sont tes prochains projets ou tes prochaines aventures ?
Pendant que je traversais l'Islande, en fait, je pensais déjà à mon futur aventure, même si c'est pas super d'enchaîner les aventures, et puis même si là, pour l'instant, je profite de mon retour, j'aimerais vraiment partir traverser les États-Unis du sud au nord et faire le PCT, le Pacific Crest Trail, qui est une randonnée de 6 mois qui part de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière avec le Canada, avec des paysages magnifiques. On passe du désert jusqu'à au niveau de l'Alaska, où on est dans des paysages montagneux. Ça dure à peu près 6 mois. C'est très 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 compliqué, mais c'est quand même un de mes fantasmes, on va dire, ouais.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc voilà, t'as un petit espace à toi pour t'exprimer. Donc si tu veux partager une recommandation, un proverbe, une anecdote, c'est à toi.
Pour revenir à quasiment à la première question, finalement, pourquoi aussi j'ai fait ces aventures, c'est un proverbe de Cousteau que j'aimerais bien partager, qui dit « On ne protège que ce que l'on connaît bien ». Et ce proverbe s'applique énormément justement à mon projet d'Islande, parce qu'en fait, si on veut protéger la nature, si on veut protéger justement et transmettre cette envie de protéger de la nature à nos générations futures, il faut la connaître. Et quoi de mieux que la connaître que de vivre ce genre d'expérience et de se retrouver seul à seul pendant des jours face à la nature, l'affronter pour mieux la connaître. Et c'est ça que j'ai voulu faire en traversant l'Islande. Et j'invite tout le monde à tenter des expériences comme ça, à se lancer des défis, même si ça vous fait peur, parce que vous allez en ressortir grandi et vous allez revenir avec des connaissances énormes sur comment vous réagissez face justement à cette nature qui est finalement indomptable et très forte par rapport à ce que l'on peut imaginer. Et il n'y a que comme ça qu'on peut la protéger, c'est si en se retrouvant face à elle et en la connaissant. Voilà. Et évidemment, N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux parce que j'ai toujours cette envie de partager cette aventure et même si par exemple vous n'avez pas l'occasion de pouvoir un jour traverser l'Islande ou de vous lancer ce genre de défi, vous pourrez le faire par le biais de mes vidéos et de mes posts sur les réseaux. C'est justement le but.
Merci beaucoup. Et voilà, c'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlingué.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.